Tu veux la référence?
Non, pas la peine.
Tu veux la référence de ce midrash? C'est sur le chapitre 60 d'Ishaël, okay? Sur Kumi Ori Kibaorer. Alors, on a le midrash suivant, une minute. Amar Yitzhak, Rabbi Yitzhak enseigné, Shana Shemelech HaMashiach Nigla, l'année où le Melech HaMashiach se dévoilera, Kol Malchi Umot HaOlam Mitgarim Zebazé, tous les rois des nations du monde se querellent l'un avec l'autre. Alors c'est là que ça commence, ce qui, à mon sens, se réfère un peu à cela. Melech Paras, le roi de Perse, Mitgare Bemelech Arabi, se querellera avec un roi arabe, Veholech Melech Arabi Le'edom, et ce roi arabe ira chez Edom, Lito Laïtsa, pour avoir un conseil. Vous savez, tous ces voyages des Irakiens à Moscou, là. Mehem, Vehoser Melech Paras, et le roi de Perse, reviendra. Bon, le sens de Hoser, ça veut dire par la suite, Mahari de Kola Olam, détruire tout le monde. Et toutes les nations du monde seront en tempête et en béhala, et comme Jérôme disait, en troupe. Hein? Bon, mais vous comprenez en hébreu, ça ne vient pas en français. Hein, paniqué, voilà, exactement. Benoflim al-Benehem, et ils seront face contre terre. Ve yachez otam tirim ke tire yoleda. Ils seront pris de douleurs comme les douleurs de l'enfantement. Israël, Mitrahashim ou Mitbaalim, et en Israël aussi, on sera en tempête et en panique. Veomer, les Khan Navo, les Khan Venelech, et on se dira où aller, où partir. Veomer, et Dieu leur dit, Banaï, mes enfants, Altitiareu, n'ayez pas peur. Kolma, j'ai assisti tout ce que j'ai fait. Lo asitia la bishbilchem, ce n'est que pour vous. Mi penema temitiarim, pourquoi avez-vous peur? Altiaru, n'ayez pas peur. Giarzman miolatrem, le temps de votre délivrance arrive. Or, c'est assez frappant. Il ne faut jamais faire des analogies de ce genre. Okay? Mais c'est très frappant que lorsque la guerre entre l'Iran et l'Irak s'est déclenchée, il y a eu une panique dans le monde. Ça s'est plus ou moins atténué. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, jusqu'au Japon, on était paniqué, qu'est-ce qu'il va y avoir avec le pétrole, enfin, bref. Et puis tous ces remous qu'il y a dans les rapports entre Israël et l'Amérique et la Russie, qui tournent autour des armes à l'Iran, parce qu'Israël a intérêt à ce qu'aucun des deux ne gagne la guerre. Et vous connaissez toute l'histoire. C'est une panique mondiale. Et actuellement, il y a un risque de guerre mondiale à cause de la protection que l'Amérique veut obtenir des Soviétiques sur le Shahid. La navigation dans le golfe là-bas, enfin, je ne sais pas si vous suivez les journaux. Et ça me rappelle d'ailleurs une caricature de Doche dans Mahari, au moment où cette guerre s'est déclenchée, ça fait déjà 5-6 ans, 7 ans peut-être. Okay. Et on voit un soldat irakien, un soldat iranien se vider avec le fusil, puis un petit israélien dans le coin qui dit mon Dieu, qui vise juste tous les deux. Alors, il y a un problème comme ça. Et alors, vous savez que Maïmonide déjà enseigné, lorsque se réaliseront les paroles que les prophètes et les sages, dit Maïmonide, ont dit à propos de la fin des temps, et toujours la fin des temps, c'est la fin des temps de l'exil, il ne faut pas s'accrocher aux détails. Parce que les prophètes eux-mêmes, ou les hachamim, ont parlé en général. Donc ne cherchez pas des analogies de détails, mais ce qui est frappant, c'est la massivité du fait dont il est parlé, et chez les prophètes, et dans le Midrash. Je vous comprends. En fait, on ne peut pas nier qu'il y a un problème mondial, l'Iran et l'Irak. Et ça s'appelle dans le Yalkut Shimoni, le roi de Perse avec un roi arabe. Et vous savez que les Irakiens, c'est un régime arabe, alors que les Persans sont musulmans, mais pas d'hommes, les Iraniens. Bien. D'ailleurs, je me souviens que quand la guerre a éclaté, il y a eu à la Knesset, un moment de, comment dire, on a arrêté la discussion parce que le Rav Menachem Cohen, qui est un Khaver Knesset, a apporté le Yalkut Shimoni à la Knesset et ça a été lu à la tribune. Alors on a arrêté la séance plénière Et tout le monde s'est agglutiné au buffet autour du cappuccino. Et après, chacun est allé à ses affaires. Enfin, non, c'est tout bon. C'est prévu. Alors, ce que je vous ai annoncé déjà, il y a deux cours. Donc, quand j'ai essayé de vous décrire la typologie des adversaires d'Israël, c'était un des cas qui est peu connu, c'est Abimelech. Alors, Abimelech, c'est le nom de la dynastie qui occupait Eretz Pelachet, non, plus exactement les colonies des Philistins sur la côte d'Eretz Knaan, puisque Eretz Pelachet, c'est plus au nord d'Eretz Israël. Et alors, de la même manière que le mot de pharaon, le pharaon désigne la dynastie en Égypte. Abimelech désignait la dynastie de ces Pélistines. Et on voit que Abraham, finalement, vous raccrochez ça à l'analyse de la Mida d'Abraham, c'est Shalom Achav, enfin, je raccourcis, mais vous vous rappelez de cette analyse à l'époque, et la protection d'Abraham sur Ishmaël qui va très loin. Et nous voyons que Abraham accepte de contracter une alliance avec Abimelech, c'est au chapitre 20, dans la paracha de Vayera, le verset 19, c'est bien, non, 16. Hein? Non, d'abord. Et qui est motivé sur le verset suivant, je vais vous donner le verset. Alors, c'est au chapitre 20. Quand il y a eu la querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers d'Abimelech à propos des puits que Abraham avait creusés, c'est bien cet épisode, ok?
Non, c'est
quand
Abimelech
a pris ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est là, dans la première rencontre. Et ensuite, on retrouvera le deuxième épisode. Mais je vais d'abord vous donner ce verset-là.
Dans la page.
Et tu as un Torah Tmima?
Oui.
Voilà, vous avez au verset 15 du chapitre 20. Lorsque finalement Abraham contracte alliance avec Abimelech, lorsque Abimelech a reconnu son erreur, bon, c'est un autre thème. Le fait que le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur, ça on va pas étudier ça aujourd'hui, mais il se dévoile qu'Abimelech a pris Sarah. Alors, cette civilisation a été frappée de stérilité, d'ailleurs. Et finalement, Dieu se révèle à Abimelech dans le rêve et lui ordonne de rendre Sarah à Abraham. Et là, il y a une première alliance entre Abraham et Abimelech. Et voilà comment c'est formulé. « Vayomer Abimelech, ine arsi lefanecha bato ve'enecha shev. » Première chose. Après, je verrai le verset suivant. Abimelech dit à Abraham, « Voici ma terre. » C'est Abimelech qui parle, devant toi, là où tu veux, installe-toi. Et Abraham accepte de s'entendre dire de la terre que Dieu lui a promis par Abimelech qui dit ma terre. Regardez à quel point, encore une fois, sans aller dans les analogies de détail, à quel point ça ressemble à ce que nous vivons lorsque les occupants du pays nous disent c'est ma terre, installe tes ghettos dans ma terre. Vous avez vu ? Et Abraham accepte. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire ou de mettre en évidence. Et alors, Ul Sarah Ama, à Sarah, il a dit, Ine natati elef kesef le'achicha, je te donne 1000 pièces d'argent à ton frère, Ine ulach kesut enaim, ce sera un dédommagement. Je ne traduis pas littéralement kesut enaim. Et le Midrash nous apprend que c'est avec cet argent qu'Abraham a dû acheter la caverne de Marpella pour enterrer ça. Bon, un des deux migrations qui parle de ce problème. On voit qu'on s'est lié. Alors ensuite, il y a, à la fin du chapitre 21, une querelle entre les bergers d'Abimelech et les bergers de... et les bergers d'Abraham. Vous l'avez donc à la fin du chapitre 21. À propos des puits, et finalement, il y a une alliance à Beersheba entre Abraham et Abimelech. Ça veut dire que Abraham a a signé une alliance avec Abimelech et la clause est que la terre s'appelle la terre d'Abimelech. C'est pourquoi, quand je vous ai fait cette typologie, je vous ai signalé que la rivalité par Abimelech porte sur la relation à la terre. Elle est au niveau Yitzhak. On retrouvera d'ailleurs Abimelech aussi dans l'histoire d'Yitzhak et avec le même épisode du patriarche qui, de sa femme, qu'elle est sa sœur, et de nouveau Abimelech avec la même scène au niveau de Yitzhak et de Rivka. Bon, comme vous voyez, j'ai difficulté à parler, mais on reprendra ce thème un peu plus en détail si ça vous intéresse la prochaine fois. Mais je continue. Alors, juste après, nous avons le chapitre 22, qui est le chapitre de la Akedat Yitzhak. Vahi, Achar Advari Maele. Et il arriva, après ces événements, Vahelokim Issa et Abraham, et Dieu mit à l'épreuve Abraham. Alors le Midrash va interpréter le mot de Dvarim, Achar Advari Maele, à sa manière, en disant que le mot de Dvarim, ça veut dire des paroles. Qui a parlé? Et nous avons toute une série de Midrashim qui a parlé en conséquence des événements qui nous sont racontés précédemment. Et Rashi en particulier cite deux de ces Midrashim, il y en a d'autres. C'est le Satan qui parle et Ishmaël qui parle. Je reprends la question d'Ishmaël, d'où on était parti. Et c'est Ishmaël qui formule contre Yitzhak son droit à l'héritage de la terre. Vous vous rappelez de cela? En disant, toi tu as été circoncis à 13 ans, mais moi j'étais à 8 jours, mais moi j'étais circoncis à 13 ans. C'est déjà qu'on était parti. Vous voyez comme c'est lié? C'est-à-dire, c'est au moment où Abraham semble renoncer au droit à la terre pour Yitzhak qu'Ishmaël réclame le droit à l'héritage contre Yitzhak. C'est clair? Donc, plus profondément que les Midrashim, qu'on connaît habituellement les Midrashim, sur Vayahar Advari Maele, si on prend le chat de l'expression, et il arriva, qu'est-ce que ça veut dire après ces événements, en conséquence de que. Alors, je vais formuler à ma manière, un peu de cette manière, puisque c'est comme ça, Dieu dit à Abraham, eh bien, ce fils pour qui je t'ai donné cette terre, rends-le-moi. Voilà. Vous voyez à quel point c'est grave, comme. Lien direct entre ces différents événements. J'avais une fois inventé un midrash, et je me souviens tout de suite, c'est interdit, je ne peux jamais faire ça. Alors, imaginez Abraham qui prie devant Dieu en lui demandant d'accomplir sa promesse, de donner cette terre qu'il a promis à sa descendance. Effectivement, et ça, je vais vous citer Edmond Fleg. Vous avez entendu parler d'Edmond Fleg, qui disait une fois: Dieu n'a jamais promis leur terre au peuple et non à nous, il nous a promis, à nous seuls, il nous a promis notre terre et on l'a pas. Et pour réfléchir à ça. Alors je reviens à mon midrash. Alors Abraham qui prie, accomplit ta promesse. Et Dieu lui répond, tu me demandes d'accomplir la promesse pour ta descendance, laquelle? Les Arabes de Jéricho ou les Juifs de Paris? Oui, ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire, il y a de nouveau ce qui nous est raconté au niveau de l'identité et de l'histoire des patriarches, qui est vécu dans la réalité. Rappelez-vous cette grande phrase, ce grand principe de la Parshanout, « Kolma sheira la avot siman la banim »« Tout ce qui est arrivé au père, c'est un signe de ce qui arrive aux fils, aux enfants, aux descendants. » Alors voilà, en tout cas, une indication en passant concernant le problème de Abimelech. Je le reformule, à partir du moment où Israël s'entend dire, voilà, c'est ma terre, installe-toi où tu veux, mais c'est ma terre. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Quand Abraham a voulu acheter la caverne de Marpella, les Hittites lui ont dit, toi Abraham, tu prends le caveau que tu veux, pourvu qu'on t'en perde, mais en cadeau. Et Abraham dit, non, je veux un shtar kinyan, je veux un contrat d'acquisition. Parce qu'un shtar kinyan, un contrat d'acquisition, même, c'est halakha, même pour une prouta, c'est plus fort qu'un shtar matana, c'est-à-dire un contrat de donation. Et on voit que le souci d'Abraham, le tikkun qu'il va faire juste après, c'est qu'il va falloir qu'il achète cette terre qui lui a été promise. Et alors nos droits sur Israël, ça commence à l'achat de la caverne de Marpella par Abraham. Et bien qu'Abraham ait pris la précaution d'avoir un shtar kinyan, et c'est très important d'étudier ça dans la Gemara, à quel point la Gemara utilise la vente du Sdeh Efron pour baser les premières lois qu'elle enseigne sur le mariage. d'ailleurs, dans la grammaire de Gnouchi. Alors, bien qu'Abraham ait pris cette précaution, il semble que ça ne nous serve à rien, puisque même les autorités de la nation d'Israël ne sont pas sûres que Hébron, ça leur appartient. Bon, ils se sont fait avoir par l'histoire, ils ont construit à côté de Hébron une ville qui s'appelle Kiryat Arba, et Hébron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des dimensions énormes de ce fait, que ce que la Torah nous raconte de l'histoire des pères, nous le vivons. Voilà ce que je voulais vous citer. Alors je crois qu'on est arrivé à l'heure, je suppose. Oui, pratiquement. Alors écoutez, je suis encore une fois désolé, bien que j'ai fini d'être parmi les désolés Hadash, je suis encore je suis encore obligé de voyager. Donc la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais la semaine d'après, si Dieu veut, on retrouvera le coup. Je crois qu'on aura encore 2 semaines avant la fin de l'année. Alors ce que je vous propose, c'est de rester sur la question de Yitzhak Ishmael, et en particulier d'étudier la fin de cette histoire, comme la Torah l'indique. Je donnerai les références à préparer tout de suite. Bessel. Alors je fais je vais te donner la réponse. Oui. Pour une semaine. C'est-à-dire, je ne serai pas là ce jeudi, je viens.
Je crois que vous retrouvez, c'est un témoin d'Abraham.
Hein?
Témoin d'Abraham.
Oui. C'est la fin de la page.
Est-ce que je
vais
vous demander. Vous aviez l'air de traduire directement, c'est aussi clair que ça, ou c'était interprété quand vous lisiez dans le livre?
Non, là je vous ai annoncé la dernière fois, je vous ai lu directement sur la traduction en hébreu. Ouais.
Okay.
Non, mais c'est pas interprété, je vous ai lu exactement ce que
j'ai écrit. C'est même traduit, c'est un peu. Ouais.
Enfin, j'ai expliqué un peu.
Oui.
Tiens, je te donne ça.